Bonjour tout le monde, nous sommes mardi le 5 novembre aujourd'hui, journée bien spéciale, jour J pour nos amis les Américains et Américaines, bien sûr. Bonjour Alexis.
Bonjour Anne.
Est-ce que les élections américaines t'intéressent?
Ah, absolument.
Oui.
Fervente politique, toutes les élections m'intéressent, mais surtout celle américaine parce que c'est un pays très important et ça change beaucoup de choses.
Je crois que c'en est une qui va être mémorable.
Ah oui,
pense pas qu'on va connaître les résultats aujourd'hui, là, parce que les dernières élections aux États-Unis, je pense qu'ils ont eu les résultats le samedi suivant.
Exactement.
Parce que c'est toujours un mardi de novembre, les élections d'ailleurs aux États-Unis. Donc, on verra bien. Il y a Cogeco qui s'occupe pas mal de nous, là, côté information pour ça aujourd'hui. Donc, on aura plein de détails.
Ils vont nous abreuver toute la journée.
Exactement. Alors, on souhaite la bienvenue à nos auditeurs. On débute tout de suite avec les informations en parlant d'un incendie important maîtrisé sur le Wolf à Maniwaki aujourd'hui.
Le service de sécurité incendie de Maniwaki a été appelé vers 3h20 pour intervenir sur les lieux d'un incendie sur la rue Wolf à Maniwaki. Deux équipes de pompiers ont pénétré à l'intérieur pour tenter d'éteindre le brasier, mais les flammes se sont propagées à la structure du bâtiment et ont forcé ces derniers à battre en retraite. C'est finalement à 5h45 que la brigade est venue à bout de l'incendie. Le chef pompier de Maniwaki, Jason Campbell, en dit davantage sur l'intervention.
À l'arrivée des premières équipes d'intervention qui ont rapidement rabattu les flammes en mode offensif. Par contre, on a eu une propagation à la structure du bâtiment qui nous a fait passer, dans le fond, en mode attaque défensif. Puis, il y a eu deux équipes d'attaque à l'intérieur là, qui ont pénétré dans le bâtiment pour tenter de rabattre l'incendie. Malheureusement, le feu est passé au niveau de la structure du bâtiment qui nous a obligés de battre en retraite. Donc, on a fait l'intervention en mode défensif. Il y avait deux personnes qui étaient déjà évacuées à l'arrivée des pompiers qui ont été pris en charge pour inhalation de fumée là, par le service ambulancier.
La cause de l'incendie est inconnue pour le moment.
Parlons de la FCEI qui déplore les réductions en matière d'immigration imposées par Québec et Ottawa.
Au cours des deux dernières semaines d'octobre, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont chacun annoncé des réductions en matière d'immigration. Prises dans le contexte de la pénurie de logements et des enjeux en lien avec la francisation et l'accueil des personnes immigrantes, ces mesures ne sont pas de bon augure pour les PME à travers le pays, comme le mentionne le vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, François Vincent.
On dirait que là, on est entré dans un concours à savoir quel gouvernement va apporter plus de restrictions supplémentaires au niveau de l'immigration. Mais ça a des conséquences directes sur les petites entreprises, sur leur croissance, sur les régions du Québec, sur les employés. Puis, c'est pas quelque chose qui est positif pour l'économie, là.
Les difficultés de recrutement causées par une rareté de la main-d'œuvre rendent nécessaire la contribution des travailleurs étrangers afin de soutenir l'économie selon de nombreux intervenants. La FCEI anticipe que ces décisions auront des répercussions directes, comme le fait valoir François Vincent.
Quand tu te retrouves comme entreprise avec des postes vacants comme ça, bien, ça a des impacts, des incidences directement sur l'entreprise. On avait évalué là, entre 2021 puis 2022, là, quand la pénurie de main-d'œuvre était à son maximum, à des pertes de 19 milliards de dollars pour les PME au Québec. Ces décisions-là vont avoir une incidence économique, ça c'est certain.
Pour sa part, la députée de Pontiac, Kitty Ganzibi, Sophie Châtel, avance que la pénurie de main-d'œuvre est moins importante qu'elle ne l'était en 2021-2022, année de pandémie. L'annonce du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Mark Miller, de réduire de 20 % le nombre d'immigrants acceptés permettra de cibler plus efficacement les personnes admises.
On peut pas juste s'asseoir sur un coin de table puis dire il y a trop de résidents permanents qu'on accepte ou il y a trop d'immigrants temporaires. Faut toujours que ce soit basé sur les sciences économiques puis les données. Et c'est ça qu'on a pris le temps de bien mesurer puis d'avoir une immigration qui répond à tous nos besoins, y compris la capacité d'accueil, y compris les besoins économiques, y compris les secteurs ciblés comme la construction et les soins de santé.
La FCEI rappelle que le Québec comptait près de 140 000 postes vacants au deuxième trimestre de 2024.
Parlons de grève maintenant pour les employés de la SAQ.
Les employés de la SAQ de Maniwaki se sont réunis devant la succursale de la Société d'État hier afin de manifester pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Il s'agit de la cinquième journée de grève depuis le 24 avril. Lors des dernières rencontres de négociation, le syndicat a déposé une contre-proposition salariale de 20 % sur 5 ans, en réponse à l'offre initiale de 16,5 % sur 6 ans proposée par la SAQ. La déléguée régionale du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ, Karine Beaulieu, en dit davantage.
Depuis le début, le syndicat fait beaucoup de concessions là, sur justement la planification des horaires, comment engager des nouveaux employés, tout ça. Et au bout de deux ans, ben, quand ils se sont assis à table, ils nous ont dit ben, « on vous offre 17,5 % sur six ans et vous oubliez tout ce que vous demandez puis vous acceptez tout ce que nous, on veut ». Et là, comme de fait, on a dit non.
Le syndicat a réitéré sa volonté d'obtenir un accès plus rapide au régime d'assurance des employés qui doivent actuellement attendre 7 ans avant d'y avoir droit. Les salariés désirent également protéger le nombre de postes réguliers alors qu'à peine 30 % des employés peuvent compter sur de telles conditions.
Ça veut pas protéger nos postes, autant des bureaux, autant que dans les magasins. Veux pas, quand on parle des assurances, ben c'est 30 % des gens qui ont des assurances avec un peu de temps partiel, mais ceux qui font 7 ans à la SEQ et 20 heures par semaine minimum. Donc, ça donne vraiment pas beaucoup de gens qui ont accès à ces assurances-là. Et à la SEQ, on n'a pas les assurances pour les yeux, on n'a pas les assurances pour les dents.
Le syndicat ne ferme pas la porte à davantage de jours de grève si leurs demandes ne sont pas entendues.
Maintenant, Alexia va parler d'ajustements salariaux. Les travailleuses de la santé en Outaouais pressent Québec de respecter ses engagements.
Le syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais déplore que les ajustements salariaux consentis à ses membres n'aient pas été versés au moment convenu. Par voie de communiqué, l'organisation syndicale affiliée à la CSN demande à Québec de respecter ses engagements et de payer les sommes dues. Dans une note de service, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a informé les employés concernés qu'ils devront attendre en 2025 avant d'espérer recevoir ces ajustements de salaire. On écoute le président du syndicat pour l'Outaouais, Alain Smolinecki.
Ça laisse un goût amer en bouche. Ça irait mieux si le gouvernement serait capable de respecter sa parole, t'sais, en équité salariale, mais il y a aussi tout le volet de la négociation de la convention collective qu'on a signée cet été. Ben, il y a plein de choses là-dedans aussi là, qui ont été négociées, qui ont été signées par le gouvernement. Puis même des demandes du gouvernement qui ne sont toujours pas réglées. Là.
Ce dernier estime que l'intention du gouvernement d'améliorer l'attraction et la rétention du personnel grâce à ses primes et incitatifs ne se réalisera pas s'il peine à respecter ses engagements.
Le gouvernement a proposé lui-même de bonifier ces primes-là de soir, de nuit, de fin de semaine pour s'assurer que les gens soient plus intéressés à travailler sur ces corps-là. Puis on n'est même pas capable de le payer aux travailleurs. Là. Même chose pour le temps supplémentaire à taux double. C'est une demande du gouvernement, mais ce n'est toujours pas appliqué.
Alain Smolinecki avance que l'entreprise responsable du système de paie dans la région n'aurait pas obtenu la consigne de mettre en place les ajustements convenus. Selon lui, Québec retarderait volontairement ce processus afin de justifier la création de Santé Québec. Voici ses propos.
Le ministère utilise l'arrivée de Santé Québec pour se faire du capital politique en disant bien, les CIS et les CIUS n'ont pas été capables de le faire, mais Santé Québec, lui, va l'être. Il essaie de prouver de façon détournée que Santé Québec va être plus efficace en gérant provincialement que chaque CIS et CIUS dans leur région.
Le syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais avance qu'une campagne de mobilisation nationale se prépare dans les différentes régions afin d'exiger le paiement des ajustements salariaux, notamment.
Merci à toi encore une fois, Alexis Goyer. On se retrouve vers 9h30. Évidemment, on parlera du bulletin de 10h.
Exactement.
Merci.